Donc bonsoir, c'est moi qui prends la parole ce soir. Bonsoir. Donc moi je suis Armelle Pérennes de l'INRA Poitou-Charentes. Je n'ai pas trop l'habitude d'être dans la lumière, donc je vais faire assez court. Et je vais vous présenter les deux intervenants qui vont débattre après la projection donc, du film Herbe dans le cadre de la manifestation Images de science, science de l'image et dans le cadre aussi des 70 ans de l'INRA. Donc les deux intervenants qui débattent après le film sont Jean-Louis Durand, qui est directeur de l'unité de recherche pluridisciplinaire prairies et plantes fourragères à Lusignan, en Poitou-Charentes, et Vincent Châtelier, qui est directeur, lui, du laboratoire d'études et de recherche en économie de l'INRA de Nantes, voilà, qui nous fait l'honneur de venir de Nantes, merci. Donc tous les deux pourront discuter avec vous à l'issue du film et ouvrir le débat et en particulier remettre aussi un petit peu à jour, entre guillemets, puisque le film date quand même de quelques années. La situation a évolué depuis, donc ils pourront nous expliquer tout ça. Voilà, mais donc on va commencer par le film Herbe et puis le débat après le film. Bonne soirée. Donc j'en profite pour rappeler le nom des deux intervenants, donc Jean-Louis Durand et Vincent Châtelier. Jean-Louis Durand, plus spécialiste, tu me corriges si je dis des bêtises, de l'herbe, comment elle pousse en fonction de l'environnement et notamment du climat. Et Vincent Châtelier, plutôt sur les questions d'économie.
Merci. Alors... Vincent et moi, on s'est à peu près mis d'accord pour faire une intervention assez courte qui devrait vous permettre... on voudrait amener des éléments de compréhension par rapport au thème du film, en restant assez près. Donc plutôt dans la production végétale pour ce qui concerne l'alimentation, production de lait... C'est de circonscrire la discussion autour de ça. Moi, effectivement, comme le disait très bien Armelle, plutôt sur la bioclimatologie, l'écophysiologie de l'herbe. Et puis, Vincent, plutôt économiste. Ce qui veut dire qu'il manque quand même un acteur assez crucial qui serait le spécialiste de l'élevage, des systèmes fourragers et puis zootechnicien de l'animal. Je dis ça parce que comme il y en a dans la salle qui se cachent. C'est pour dire que moi, mon sentiment par rapport au film que j'ai découvert avec vous, c'est d'abord, j'aime beaucoup parce qu'il filme de très près les travailleurs des campagnes. C'est pas toujours, et c'est un angle qui, je trouvais, assez respectueux. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vu. Le cinéaste, je trouve, fait un bon boulot. En même temps, c'est un film qui prend parti sur une option par rapport à une autre. Bon, et on va en discuter. Mais je trouve que c'était assez honnête la façon de prendre le point de vue. Et on voit que c'est l'homme des travailleurs. Voilà, ça rigole pas, quoi qu'il fasse, de toute façon. Alors, ça, c'est important. Et on voit qu'ils s'affrontent. Ils ont quelque chose, c'est la production végétale pour nourrir des ruminants qui ensuite font du lait. Donc moi, je voulais juste amener... le film, moi, je l'ai trouvé bien fichu. Sauf qu'il amène beaucoup de problèmes et il ne donne pas beaucoup de clés de compréhension. Donc moi, je vais juste amener deux, trois éléments sur la biologie de l'herbe, en fait. Bon, comme ça, si on est l'espace Mendès France, c'est pour diffuser des sciences, donc donner quelques connaissances, qui sont quand même importantes pour comprendre les problématiques. Par exemple, la différence entre ce qu'on appelle l'herbe et le maïs, alors que ce sont des graminées, hein. C'est quelque chose, premièrement, une grosse différence, c'est que l'herbe, c'est un système pérenne, donc on installe, et puis selon les systèmes, il peut être là quasiment indéfiniment. Elle se renouvelle par reproduction végétative, il y a un peu de reproduction sexuée, ou alors on retourne tous les 5 ans, et puis on remet de nouvelles semences. Et puis bon. Le maïs, pas du tout, donc c'est semé. Alors pourquoi est-ce que le maïs est si efficace? C'est parce qu'il appartient à une catégorie de plantes qui pousse bien quand il fait chaud et qui ne pousse pas du tout quand il fait froid, enfin elle meurt dans nos régions. Et quand il fait chaud, elle est 2, 3, 4 fois plus efficace à convertir l'énergie solaire que l'herbe. Voilà, toutes choses égales par ailleurs. Et comme de façon assez régulière le soleil arrive et que les conditions La seule chose qui peut la limiter, c'est le manque d'eau, ce qui n'est pas la caractéristique principale de la Bretagne. Et donc, en théorie, avec les variétés actuelles, on a un système très efficace pour produire beaucoup de fourrage assez rapidement, et donc on peut faire des stocks. Donc ça permet une régularité, une prédictibilité sur la disponibilité en fourrage, finalement au cours de l'année, très considérable. Et quand il parle de sécurité, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais y compris dans ceux qui utilisent l'herbe, il y a une espèce, quand ils disent le moment est un peu dur à passer, l'herbe, ça se distingue en ça, que sa vocation à pousser tout le temps pendant la production. Donc la taille du troupeau va être adaptée à la production d'herbe à peu près moyenne, mais il faut savoir qu'il y a ce fameux pic au printemps qui correspond à la floraison des plantes, et qui fait qu'il y a d'un seul coup une grande quantité d'herbe, et il y en a beaucoup plus que ce que le troupeau peut absorber à ce moment-là. Donc on fait des stocks, on profite ça pour faire du foin pour l'hiver, où là ça ne pousse pas du tout. Et puis après, il y a cette période suivante qui est très indécise, très très variable d'une année à l'autre, à cause de l'irrégularité de la pluviométrie, des températures, printemps, été, automne. Et donc, c'est ça qui, effectivement, explique à un moment donné pourquoi il y a deux systèmes. Alors, la sécurité liée au maïs, c'est le fait qu'on peut prévoir de façon à peu près claire, maintenant, en utilisant les techniques et puis l'agriculture, arriver à alimenter un troupeau avec rien que de l'herbe, c'est comme il le dit, plus compliqué, enfin, surtout quand on n'a pas l'habitude, ce qui est le cas là. Mais le fait est qu'il y a cette oscillation de très haute production supérieure aux besoins, et puis d'un seul coup, des productions beaucoup plus faibles, très inférieures aux besoins. Donc, faut jongler avec ça. C'est ça la base un peu, si on veut, biologique de ces deux systèmes. Alors, ensuite, une autre chose que je voulais amener, c'est qu'effectivement, le fait qu'on ait un couvert végétal qui couvre le sol tout le temps, en principe, ça pourrait permettre d'assurer qu'il n'y a pas trop de pertes d'éléments minéraux dans le système. Alors, en réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que quand on a un système au pâturage, et ben, comme les vaches sont sur la parcelle, elles concentrent énormément l'azote. Alors là, je parle aussi en présence d'un grand spécialiste de ça. Elles rejettent par les fesses et les pousses de vache et l'urine, de façon très localisée, des très grandes quantités, des trop fortes concentrations de nitrates. Et finalement, quand on regarde bien, la pollution, le lessivage des nitrates sous une pâture, ça peut être relativement très important. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et une chose qui n'est pas dit, par exemple, dans le film, mais là, on le voit, alors on peut dire que c'est le cas, la façon dont on fait pousser l'herbe, ça dépend aussi beaucoup de la quantité d'azote dont elle dispose. Il y a deux solutions. Soit on apporte de l'engrais chimiquement, enfin produit industriellement, on apporte des aides à Bosch, hein, ammonitrate, ou alors on essaye et on parvient à maintenir une quantité de légumineuses qui ne sont pas du tout de l'herbe comme les graminées, mais qui sont d'autres types de plantes qui fixent l'azote de l'air. Si on arrive à maintenir dans la pâture en moyenne, hein, une quantité suffisante, alors on peut amener une grande quantité d'azote sans fertiliser. Mais ça ne supprime pas le problème quand même, éventuellement, des lessivages liés au pâturage. Pas complètement. Parce que là, le lessivage ne vient pas du tout de la nature de l'azote prélevé, mais du fait que la vache, elle va casser la liaison entre des éléments stables et puis l'azote labile qui repart dans le milieu. Et du coup, un des messages importants là, de l'INRA, je parle pour l'agronomie et l'écophysiologie, c'est que si on met que des systèmes d'élevage et uniquement de l'herbe sur des territoires importants, y compris dans des systèmes d'herbagés avec un minimum de production, ça va être très compliqué de ne pas avoir ce problème de zone d'excédent d'azote. Le mieux, c'est quand même d'avoir des cultures qui vont pouvoir récupérer une partie de cet azote, comme on faisait autrefois, hein, des lisiers, du fumier. Donc là, ça va être à nouveau utilisé par des plantes ailleurs, sur des sols qui seront fertilisés avec ça et non pas avec des engrais. Et là, localement, on va pouvoir piéger les éléments minéraux dans le céréales. Mais ça suppose qu'il faut des céréales. Alors, vous aurez observé qu'à un moment donné, le gars utilise la paille, ce qui est très important dans un élevage. La paille, ce n'est pas de l'herbe. Hein. Donc, quelque part, il a utilisé des céréales. Donc, peut-être sur son exploitation, c'est pas, j'ai pas vu très vite. Ou alors à côté, mais l'idéal, c'est ça. Un des messages de l'INRA en termes agronomiques, c'est que si on veut que sur les territoires, on n'ait pas de problème de pollution important par les nitrates et puis d'autres substances sûrement plus enquiquinantes que ça, eh ben, il faut avoir une diversité de couverture. Et de l'élevage à 100%, ce n'est pas tellement meilleur que du maïs à 100%. Alors le problème des cultures, l'intérêt de l'herbe, c'est d'avoir des feuilles tout le temps au soleil et donc de pouvoir tout le temps pousser, toujours utiliser les éléments. Le problème des cultures, c'est que pendant une partie de l'année plus ou moins importante, on va avoir des sols nus. C'est tellement embêtant qu'en théorie, c'est interdit. En pratique, c'est le cas. Il faut quand même le savoir. Parce que sur les sols nus, quand il n'y a plus que de la matière organique dans le sol, et puis les micro-organismes vont la détruire pour produire des nitrates, et puis le lessivage va les emmener dans les rivières ou dans les nappes. C'est ce qui se passe en Poitou-Charentes assez massivement. Dans les aquifères ou dans les rivières, on a vu depuis 1977 passer 10 mg par litre à 50, 60, parce que les prairies, elles ont disparu de la circulation. Parce que les cultures sont associées à des sols nus pendant l'hiver. Si on arrive à mettre un couvert pendant l'hiver, il n'y a plus de problème. Mais aujourd'hui, les systèmes de production ne se prêtent pas à ça. Ils ne sont pas économiquement rentables, ceux qui permettraient de ça. Il y a eu des études assez approfondies là-dessus. Actuellement, étant donné la structure des prix et comment sont faits les revenus, c'est pas possible. Dernier point sur lequel je voulais juste donner un petit focus. Bon, c'est plus lointain, mais enfin, on y pense déjà. Le changement climatique ne va pas arranger ces choses-là. Parce que le changement climatique, c'est plus de CO2 dans l'atmosphère, un peu plus chaud, voire plus chaud, voire beaucoup plus chaud. Et puis, globalement, une évapotranspiration plus forte en été, et donc des déficits hydriques, des sécheresses plus importantes, même si la pluviométrie s'attend pas à ce qu'elle bouge énormément. Ça veut dire que ce déséquilibre de production, avec une forte production printemps et plus faible en été, ça va s'accuser. Parce qu'il y a plus de CO2, et ça, le CO2, c'est parfait pour les plantes. Et ça va économiser de l'eau en plus. La température va doper la production. Et donc, il y aura trop d'herbe à un moment donné, il n'y en aura plus assez. Bon. Et y compris en Bretagne, on a fait des calculs, enfin, on a regardé, les projections vont dans ce sens-là. Donc, actuellement, on cherche des solutions pour plutôt stabiliser. Une des actions importantes et efficaces sur les 40 dernières années, par exemple, le progrès génétique, il a été fait uniquement sur été-automne. Il n'y a pas eu de croissance génétique. Et il est de l'ordre de l'impact du changement climatique attendu. Donc ça, c'est une des réponses. C'est-à-dire qu'il y a la génétique peut le faire. Alors, le maïs, c'est plus compliqué parce que, de toute façon, la problématique, elle est un peu différente. Je ne vais pas en parler là. Concernant l'herbe, voilà ce qu'il faut. Donc moi, je vais m'en tenir à ces éléments. Puis on pourra y revenir, mais c'est des choses bon alors un peu partielles comme ça des flashs, mais c'est important à, je pense pour suivre le parce que encore une fois je trouve qu'une des choses qui est relativement bien rendue dans ce film c'est cette tension enfin on voit des agriculteurs qui sont face à leur production végétale notamment l'herbe et on voit bien comment c'est le ressenti voilà donc derrière ça il y a effectivement un couvert végétal qui a des réactions par rapport au climat plus ou moins inattendues. Je vais m'en tenir là, moi.
Merci. Merci. Ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'inviter en Poitou-Charentes, moi qui suis de Nantes. J'ai regardé le film pour la deuxième fois, mais je l'avais déjà vu en 2009. J'ai plusieurs choses à dire dès le départ. Première chose, c'est que 2009, c'est très loin. On est en 2016, ça fait 7 ans. C'est passé énormément de choses en 7 ans dans le secteur laitier. Et je me suis fait, comme quoi des fois il faut aller voir plusieurs fois les films, des réflexions en regardant les marques, les noms des groupes agroalimentaires, etc. Et en fait, la première chose que je me suis dit, c'est dingue, en 7 ans, comment les choses évoluent. On ne parle plus de Copagri quand on parle du lait aujourd'hui, hein. On parle de l'AITA, Et l'AETA, contrairement à ce qui est dit dans le groupe, ce n'est pas du tout un grand groupe. C'est 1,2 milliard de litres de lait, c'est 5 fois moins que Lactalis, ou 4 fois moins, c'est 5 fois moins que Sodial. En fait, ce qui m'a vraiment un peu saisi, y compris pour Unicopa, pour Copagri, pour ce qui est présenté dans le film comme étant des grandes structures, ce que je voudrais partager avec vous d'abord, l'étonnement d'économiste, mais pour l'avoir vécu, je suis arrivé en 92 à l'INRA, donc j'ai vécu un peu cette transformation, mais je trouve que ça va très vite. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas fini. Le deuxième message, c'est un bonheur personnel de retrouver André Pochon. Vous avez vu un peu la qualité marketing du bonhomme. Il est adorable quand on le rencontre. Moi, je l'ai rencontré dès que je suis arrivé à l'INRA en 92 avec François Colson, des gens qui étaient déjà là-dedans et qui m'avaient fait découvrir ces gens-là magnifiques. J'ai échangé avec lui des heures sur la politique agricole, sur l'équilibre entre les aides maïs, les aides herbes. En fait, c'est des ambassadeurs. Alors, bon, quand on est scientifique à l'INRA, des fois on en prend et des fois on en laisse, parce qu'il y a tellement de passion là-dedans que des fois on peut aller un peu au-delà de ce qui est raisonnable de dire. Et c'est ce qui nous valait d'ailleurs des moments de débat magnifiques avec lui. Ce que je voudrais dire dans ce deuxième message, c'est que je ne suis pas certain que dans la nouvelle génération d'agriculteurs, nous aurons des hommes et des femmes de cette finesse et de cette qualité de jointure au monde scientifique, parce que vous l'avez bien vu, il a rappelé toute l'histoire de la jointure de l'INRA au modèle intensif avec la transformation des modèles. Et en fait, c'était un bon connaisseur à la fois du positionnement institutionnel de l'INRA, mais aussi plus que ça. Il allait voir les gars, il connaît les chercheurs. La nouvelle génération, on est quand même beaucoup plus distant, ce qui me rassure pas. Ça, c'est le deuxième message que je vais dire en voyant le film. Et le troisième message, c'est que je trouve pas mal fait par rapport à tant de trucs qu'on voit sur l'agriculture que je trouve mal fait aujourd'hui. C'est-à-dire que je tire un peu mon coup de chapeau à l'auteur que je n'ai jamais rencontré. C'est pas mal fait, je partage l'idée. C'est pas mal fait, c'est assez pondéré. Voilà, c'est engagé, bien sûr, mais c'est pas grossier. Voilà. C'est pas trop mal géré, il y a beaucoup d'humanité là-dedans. Il y a de la vérité, il y a de la sincérité, il y a des choses intéressantes. Il n'y a pas d'opposition frontale comme on a dans beaucoup et tant d'émissions aujourd'hui et qui font que l'agriculture devient de moins en moins comprise du reste de la société. Ça, c'est les trois messages, j'en aurais beaucoup d'autres. Après, sur les quelques mots comme ça pour accompagner ce qui a été dit, on a beaucoup parlé de la structure des exploitations. Sous-entendu, il y a les petits, moi j'ai 150 000, l'autre il a 300, etc. On a parlé de la structure. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'il reste 63 000 exploitations laitières en France, qu'une exploitation produit 400 000 litres de lait. Dans les 63 000 exploitations, vous avez 20 000 GAEC, donc des structures associatives. Là, je mets un petit point à coin, parce que je ne suis pas d'accord avec l'esprit de là. Ils ont quand même beaucoup présenté le truc, les gars qui sont en modèle maïs. En gros, ils n'ont pas de temps libre, 7 jours sur 7, 10 jours par heure. Je n'y crois pas une miette à ça. Ça a beaucoup changé. On a dans les 20 000 GAEC laitiers beaucoup de gens qui arrivent à prendre bon an mal an. Hein. Ce n'est pas toujours simple, surtout quand ça ne rapporte pas, comme en ce moment. 15 jours de vacances, un week-end sur deux. Moi, je n'ai pas cette vision aussi négative du rapport au travail en agriculture que ce qui a été présenté dans le film. Alors, au niveau des structures d'exploitation, des systèmes purement herbagers, quand on fait les analyses de systèmes en France, on peut le faire à partir des bases de données. On l'a fait, moi j'ai travaillé avec l'Institut de l'élevage sur ces questions-là. Des systèmes purement herbagers, vous savez, où il y a en gros moins de 10% de maïs, je parle sous votre contrôle, de maïs dans la surface fourragère. C'est rare en fait, dans les zones de plaine. Sur les 63 000, il y a moins de 8 000 exploitations comme ça en France. Donc c'est rare, c'est une rareté. Par contre, c'est extrêmement fréquent dans les zones de montagne. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a à peu près 15% du lait français qui est le fait d'exploitations de montagne et pour lesquelles les systèmes herbagers ont une place un peu naturelle, historique et préservée. Sur les structures d'exploitation, à la fin, on a entendu la conclusion, on a dit « Ouais, mais à ce rythme-là, il en restera combien ?» Alors, je voudrais vous dire ce que disent ceux qui publient là-dessus. Ce que disent les gens qui publient là-dessus, en fonction du taux de renouvellement des exploitations aujourd'hui, on devrait perdre à peu près, Alors, il ne faut pas s'en réjouir. Mais c'est ce qu'on devrait perdre, d'après ce qu'on étudie, 20 000 exploitations. 20 000 exploitations dans les 8 ans. En fait, on perd chaque année en France entre 2 500 et 3 500 exploitations laitières, ce qui est beaucoup, puisque ça fait un taux de 3,5 à 4% par an. La restructuration dans le secteur laitier, elle est plus rapide que dans les autres catégories d'exploitations agricoles. Donc cette restructuration, elle est là, elle est en marche, et elle n'est absolument pas spécifique à la France. Alors, deux trucs que je n'ai pas ressenti beaucoup dans le film. La première chose, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce qui se passe ailleurs. C'est un film qui est très centré sur la France, qui est très bien, même pas sur la France, sur la Bretagne, même pas les Pays de Loire que je connais mieux, sur le Finistère, le 29, comme ils disent. Donc on est dans le Finistère, et donc on est dans une vision très auto-centrée. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le secteur laitier français, donc on pourra discuter, mais le secteur laitier français, il est très ouvert. Alors, je vais dire un chiffre très simple. Il y a 4 litres sur 10 qui quittent la France aujourd'hui. 40% du lait produit en France, 42 pour être précis, parce qu'on vient de faire le calcul, est exporté en équivalent lait. C'est pas rien quand même. Et je voudrais livrer à votre livrer en pâture, comme on dit, c'est le cas de le dire, un deuxième chiffre pour qu'on réfléchisse bien. Vous avez 23% du lait consommé en France, des produits laitiers consommés en France, qui, en dépit du fait qu'on est dans un magnifique territoire laitier, viennent d'ailleurs de la France. Et ce que je veux dire, c'est que le film, il met beaucoup sous le tapis cette question du rapport aux autres et du rapport à la concurrence. Autre élément que je voudrais avancer, c'est que la France, on a des atouts, qu'on parle du maïs ou de l'herbe, on a des atouts énormes pour être un des grands pays laitiers du monde. Rares sont les pays dans le monde capables de produire du lait avec des coûts de production plus bas que chez nous. Je vais vous en citer deux ou trois. Il y a la Nouvelle-Zélande, mais l'utilisation massive d'engrais depuis 10 ans fait que leur coût de production a beaucoup plus augmenté que chez nous en proportion. Et puis le deuxième pays, donc il reste fort. Ce que je veux dire, c'est que la crise que les agriculteurs traversent aujourd'hui, qui est forte en France, elle est encore plus forte en Nouvelle-Zélande. Et le deuxième pays qui est très fort, il faut le reconnaître, c'est l'Irlande. L'Irlande, parce qu'ils ont une production essentiellement basée sur l'herbe, et donc un coût de production qui est sensiblement différent du nôtre. Mais une fois qu'on a enlevé ces deux pays, la France fait partie des pays du monde où on est capable de produire du lait, il faut se rassurer des fois, capable de produire du lait dans des conditions économiques parmi les meilleures de ce qu'on puisse obtenir à l'échelle internationale. Alors il y a des pays, par exemple la Chine, qui est souvent citée comme étant extrêmement compétitive dans plein de domaines. Sur le secteur laitier, par exemple, ils sont incapables d'être aussi compétitifs que nous. C'est tout à fait impossible, puisqu'ils achètent non pas simplement le soja, comme c'était mis dans le film, mais ils achètent les fourrages, la luzerne, le foin aux États-Unis. Donc je voudrais dire quelque chose de très fort, c'est qu'en dépit du débat que je trouve légitime sur savoir est-ce qu'un système herbagé est plus économique qu'un système intensif, et c'est prouvé, les systèmes herbagés en général, pour des raisons qui ne sont pas que techniques, qui sont aussi liées à des choix d'investissement, ont souvent des coûts de production plus faibles. Mais en dépit de ce débat-là en France, retenez aussi l'idée que la France est un formidable pays laitier par le niveau même de ses coûts de production. Autre point important, et là, moi, je ne peux pas être aussi rapide que ça. La dame a dit, ouais, moi, je m'en sors bien, sur son revenu. Moi, je m'en sors bien, elle avait l'air joyeuse, magnifique. Et l'autre a dit, ouais, c'est quand même tendu, les trois garçons, là, un peu tendu. Et ce que je veux dire, c'est que pour un économiste, ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire. Je vais vous dire, dans 15 jours, j'ai la chance de me balader, comme l'ont fait tant de chercheurs INRA, en France, et ça fait partie des bonheurs de notre métier. J'étais à Chambéry il y a 12 jours. Je sors d'une conférence sur la PAC et l'agriculture de montagne, très sérieuse. Une femme vient me voir, elle me dit, ah ouais, venez voir. On discute, elle me dit, j'ai 8 vaches. Faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Longtemps, je vous assure. Je lui dis, alors vous m'intéressez beaucoup, madame. Alors on est allé dans un petit coin, elle m'a expliqué. Elle venait d'installer son fils avec 8 vaches. Ce que je veux dire, c'est que ça existe encore en France. Par contre, le lait n'est pas collecté. D'accord ? Le lait n'est pas collecté. Elle me dit, bon, il se tire 1000 euros par mois, c'est pas génial, mais il a l'air d'adorer ça. Ben, je dis, il faut qu'il fasse Perchis ou 2-3 trucs pour que ça le fasse. Dans les mêmes 15 jours, j'ai rencontré 7 agriculteurs. J'étais, il y a une dizaine de jours, à Rodez. J'étais invité par Prim Holstein. C'était de Holstein qu'on a vu là. Hein, Prim Holstein Aveyron. 150 producteurs, le président, je le vois la veille, on discute avec lui, il me dit quoi ? Il me dit, moi j'ai 150 vaches sur mon exploitation. Il me dit, ça roule, j'ai 5 semaines de vacances, tout va bien. Il faut être très pondéré dans la vision qu'on a des affaires. Hein. Il y avait beaucoup de boulot dans son exploit. Ils étaient 5. Il m'a dit, je m'en sors. Moi, ma priorité, c'est d'avoir une grosse structure pour avoir du temps libre. En tant que chercheur INRA, on est obligé, avant d'avoir des dogmes, d'écouter quand même le terrain. Deuxième exemple, ce midi, je discute avec un stagiaire du labo. Et puis, il me dit, un jeune stagiaire qui est là pour 2 mois. Et puis, il me dit, tiens, j'ai fait un stage dans une ferme laitière en Loire-Atlantique. Ah, ben, je dis, ça m'intéresse. T'as fait quoi ? Il m'a filé son rapport. Je vais le lire demain matin dans l'avion. Il me dit, ah ben, dans une ferme qui fait que du fromage à partir du lait de vache tiré dans la ferme 20 vaches. Ce que je veux vous faire comprendre derrière ça, c'est que, et c'est heureux, il reste, malgré le mouvement profond de restructuration, il reste des modèles encore très hétérogènes. Et ça, c'est une force de la France. Nous avons une diversité du modèle laitier comme peu de pays européens ont été capables de conserver. Et puis, comme je ne veux pas aller trop loin et puis qu'on pourra débattre, je vais dire un autre point. On a quand même passé trop de temps en France à débattre de la ferme des 1000 vaches. C'est un truc qui n'existe pas. On est dans une soirée, hein, on discute. Hein. En France, on a quand même l'art de parler de thèmes qui n'existent pas. Pourquoi ? Bon, d'abord, je connais bien le dossier. Je vais dans la Somme, j'y vais en janvier. Vous savez, voilà, faut discuter, hein, rencontrer les gens. Cette ferme de M. Ramry qui a fait tant la une des médias qui a excité tout le monde. D'abord, c'est la 400e fortune de France qui a investi dans un truc pour se faire plaisir. Il n'a jamais réussi. Il n'a jamais réussi à avoir ses 1000 vaches. Première chose. Deuxième chose, il n'y a que 3% des vaches en France dans des cheptels de plus de 200 vaches. Il n'y a que 20% du lait français qui résulte de fermes de plus de 100 vaches. Si vous voulez un corollaire, aux États-Unis, on a la moitié du lait aujourd'hui dans des fermes de plus de 1000 vaches. Ce que je veux dire par là, c'est que évitons d'aller qualifier trop rapidement notre secteur laitier. Soyons prudents. Soyons prudents. C'est vrai qu'il y a une restructuration. C'est vrai que nous sommes en crise. Mais il y a encore la place aujourd'hui pour une certaine forme de diversité. Et soyons un peu plus optimistes sur le rapport au travail que je ne l'ai vu dans le film. Dernier point. André Pochon, quand il parle de la PAC, il n'est pas toujours objectif. Et je connais bien le dossier, puisqu'il se trouve qu'à l'INRA, c'est vraiment un thème que j'ai suivi depuis 20 ans. Sur la PAC, il n'est pas toujours objectif. Mais c'est normal. Pourquoi le serait-il ? C'est un négociateur. C'est quelqu'un qui voulait qu'on attribue une part beaucoup plus importante de soutien public au système herbager versus système intensif. Il y a une chose dans le film qui est fausse. C'est quand il dit à la fin, les systèmes herbagers ont 7 fois moins d'aide que les systèmes intensifs. Ce calcul-là, il ne tient pas la route une minute. Pourquoi ? Parce que les systèmes herbagers, alors ils ont eu les CTE, ils ont eu les CAD, ils ont des aides à l'hectare comme les autres. Ils n'ont pas d'aide céréale. Ils avaient la prime à l'herbe agro-environnementale. Ils ont l'aide directe laitière, qui est calculée sur le quota laitier et qui est aujourd'hui découplée. Ils ont la surprime aux 52 premiers hectares. Et là où je suis en désaccord, et c'est pour ça que c'est facile de le dire quand le temps a passé, j'arrête. Ils disent à la fin, en 2013, il n'y aura plus d'aide PAC. Il y a bien sûr encore des aides PAC, et le montant des aides PAC par agriculteur augmente. Parce que la baisse des aides PAC, elle est par hectare. Or, et je suis d'accord avec les agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs ont plus d'hectares chaque année, un peu plus. Pas tous les systèmes, hein, certains. Et donc, le montant d'aide par actif agricole, il a plutôt tendance, contrairement à ce qui est dit dans ce film, à baisser. Et l'autre point, c'est que les choix français qui ont été faits par M. Barnier en 2009, bilan de santé de la PAC, et par M. Le Foll en 2014 pour redistribuer les aides, c'est affreusement technique, donc je vous passe les détails, sont des choix qui sont plutôt courageux pour les systèmes extensifs herbagés de montagne, moins de plaine, mais de montagne. Donc voilà quelques petites réactions pour qu'on soit bien en jambes pour discuter, et c'est là l'essentiel.
Donc la parole est à la salle.
Non, moi, ça va être une question, mais c'est d'abord une remarque. Moi, je pense que dans toutes les polémiques qu'on a autour de l'agriculture, si les gens pouvaient se dire que ce qui est nocif en agriculture, c'est l'hyperspécialisation, l'uniformisation et le manque de diversité, on aurait fait un grand pas. C'est-à-dire, le problème n'est pas d'être pour l'herbe ou contre l'herbe. On n'est pas dans les élections ni les primaires. Hein, on est bien d'accord. Le problème est de savoir quelle est la part d'herbe qu'il faut mettre dans l'alimentation des vaches laitières et quelle est la part de maïs qu'on peut intelligemment mettre pour complémenter cette herbe. C'est ça le vrai problème. Alors, que dans un sens, le tout maïs arrive à certaines absurdités lorsqu'il est généralisé à une région entière. Mais comme l'a tout à fait bien dit Jean-Louis tout à l'heure, le tout pâturage à l'herbe en Bretagne serait tout aussi catastrophique. Donc, ce qu'il faut pour la Bretagne, comme ailleurs, c'est d'avoir une diversité de modes d'occupation des sols, une diversité de modes d'agriculture, et c'est plus la polyculture élevage qu'il faut développer plutôt que des systèmes purement spécialisés, me semble-t-il. Qu'est-ce que tu en penses en tant qu'économiste ? Parce qu'on voit bien ce qui mène à la spécialisation à la fois des exploitations, mais des régions entières. C'est le paradigme d'économie d'échelle, quelque part, qui fait que plus on en fait, plus tout le monde fait la même chose au même endroit, moins ça coûte cher, globalement. Mais est-ce que ça, c'est inéluctable ? Si ça, c'est inéluctable au niveau économique, il faut tirer l'échelle au niveau environnemental. On ne peut pas avoir d'environnement dans un système qui est uniforme. Ça, c'est clair. Donc, il faut, à un moment, il faut qu'il y ait un compromis par rapport à une espèce de doxa économique qui nous impose une uniformité apparente, mais elle n'est peut-être pas obligatoire, mais il faut retrouver de la diversité quelque part.
Enfin, je partage. Après, ça dépend des échelles, en fait. La vraie question, c'est l'échelle. Est-ce que tous les agriculteurs doivent avoir des systèmes diversifiés pour qu'in fine, au global, ça soit équilibré ? Ou est-ce qu'il faut maintenir, à l'échelle d'un bassin versant, à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un canton, à voir, mais à l'échelle d'une zone géographique donnée, la coexistence, on va dire, d'une pluralité de cultures, parce que c'est ça qu'on parle. Alors, je pense qu'au niveau individuel, il y a d'abord un match entre céréales et production animale. Ce qu'on observe, et vous le savez mieux que moi en Poitou-Charentes, c'est quand un éleveur arrête, et qui donne lieu à l'installation d'un céréalier, on ne revient jamais à l'élevage. Donc on a traité définitivement la question, et c'est-à-dire qu'on va développer des surfaces de céréales à la place, notamment de surfaces fourragères. Il y a des zones de France où on résiste naturellement à la question, c'est toutes les zones où on ne peut pas faire de céréales. Et ça existe, et même dans nos régions. Donc il y a une résistance. Par contre, dans les zones où la substitution est possible entre les deux types de cultures, là, les politiques publiques peuvent avoir un effet. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'on a eu quand même un grand mouvement d'appétence des éleveurs pour la céréaliculture sur les 15 dernières années. Je ne suis pas sûr que ça sera aussi intense dans les 15 prochaines. Pourquoi ? Parce qu'on a eu les prix et les primes. En 2012, les agriculteurs, ils avaient, en producteurs de céréales, ils avaient des primes élevées à l'hectare et ils avaient des prix très élevés quand ils vendaient leurs céréales. Aujourd'hui, quand vous vous baladez, et que vous dites à un éleveur, alors ça rapporte tes 50 quintaux de céréales, ils disent, bah, que dalle en fait. Faisons un petit calcul quand même. Hein. Quelqu'un qui fait 60 quintaux de céréales, à 120 euros, ça fait 720 euros de chiffre d'affaires à l'hectare. Quelqu'un qui fait 10 000 litres de lait à hectare de SFP, Pochon nous a dit 12 000 en herbe, donc 10 000, à 300 euros, je suis gentil, ça fait 3 000. C'est-à-dire que rien que sur le chiffre d'affaires, alors on peut parler des coûts, hein, rien que sur le chiffre d'affaires, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, on a un rapport de 1 à 4 entre faire du lait à l'hectare ou faire des céréales à l'hectare. Alors dans un contexte, je vais être très précis, dans un contexte à la française, où le prix du foncier vaut pas cher, où la location se fait à 150 euros de l'hectare, développer des surfaces de grande culture, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que le prix du foncier est en train d'augmenter partout. Et que faire des céréales avec du foncier pour une jeune génération que vous allez acheter 10 000, 15 000 euros de l'hectare, pour rembourser ça quand vous faites 700 euros de l'hectare de chiffre d'affaires, mais c'est en fait tout simplement intenable, infaisable. Et donc ce que je pense, c'est qu'il y a des choses, je me rassure peut-être, mais il y a des choses qu'on a vécues depuis 15 ans sur la transformation des modèles productifs qui ne sont pas forcément reproductibles pour des raisons de prix et des raisons d'accessibilité au foncier agricole. Alors après, je pense que c'est beaucoup plus facile, enfin c'est plus intéressant aujourd'hui d'avoir des politiques publiques où on gère un peu l'espace d'une manière non individualisée. C'est-à-dire qu'on s'intéresse non pas à chaque agriculteur, mais il faut avoir des projets territoriaux un peu plus conséquents que ce qu'on a. On a une politique publique, je finis, une politique agricole qui donne beaucoup d'aide à Monsieur Dupont, Monsieur Durand et Joseph et Bertrand. Peut-être qu'il faut avoir une politique publique demain qui soit plus englobante sur un territoire et dans lequel l'argent public est donné pour un projet plus territorial qu'un projet individuel. Et ça, c'est évidemment une transformation qui serait importante de la politique agricole. Mais nous n'y sommes pas. Donc oui, quand même un peu d'espoir. Je partage évidemment complètement le fond. Et ce que je pense, pour être encore plus direct, c'est que je pense qu'il y a des zones de France qui étaient des zones de polyculture élevage où on s'est mis à développer les céréales en abondance, mais sauf qu'on n'a pas encore la copie. On n'a pas le retour de la copie. C'est tout neuf, ça. Il faudra le juger dans 30 ans, comme il dit, hein, comme ses chaînes, hein, dans 50 ans. Dans 50 ans, on verra si un sol qui n'a pas de déjection animale parce qu'il n'y a pas de proximité de fumier, etc., si ça tient encore la route dans toutes les régions de France. Dans la Beauce, ils ont de tels rendements que les choses sont faisables. Dans beaucoup de zones qui étaient historiquement en France des zones de polyculture élevage, qui vivra verra quand même sur ces questions-là.
Non, puis alors, Gilles parlait de l'environnement, mais bon, la fameuse amende, elle est retombée. Hein, on y a droit quand même. Hein, elle est pas touchante, c'est hors la loi quand même. Bon, c'est pas tenable. Et donc, il va falloir remettre des feuilles au soleil. En hiver, enfin, il faut couvrir le sol avec des feuilles. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Mais soit on met de la forêt, bon, ou alors il faut mettre des cultures intermédiaires, mais pour le moment, on n'a pas trouvé bien ce qui marche. Et en tout cas, un truc qui était pas mal, c'était une prairie. Et là, la copie, elle est rendue au niveau environnemental. Hein. C'est 10 mg à 80 mg à certains moments dans la sève niortaise. Donc, on ne peut plus alimenter Niort avec l'eau de la sève niortaise à certains moments. Comme par contrat, ils sont obligés de le faire. Ils ont un très, très gros souci. Bon, alors après, économiquement, c'est aussi une question d'échelle. Hein. Moi, je vais sur les... Parce que cette histoire-là de bilan 40% export, 20% import, bon, c'est pas une donnée climatique, ça. C'est pas une donnée... Donc, quelque part, il faudrait se poser la question. Que les Chinois achètent de la luzerne à la Californie parce qu'il n'y a pas les infrastructures ferroviaires en Chine pour amener du sud au nord les fourrages, parce que les problèmes de production animale ne sont pas au bon endroit par rapport à la production fourragère, si j'ai bien compris. C'est peut-être ça la question. Moi, je sais que j'ai entendu l'année dernière un spécialiste de l'économie du changement climatique expliquer, Ourcade, que, en gros, pourquoi faut des accords internationaux très haut niveau et des décisions super national à très haut niveau, c'est parce que la question de maîtrise du climat, ça va se jouer sur les investissements dans les infrastructures dans les pays du tiers-monde. C'est pas chacun va fermer la lumière quand c'est en une pièce. Ça, c'est de la blague. Si on trouve 50 milliards, 100 milliards pour équiper la Chine en infrastructures propres, pour stabiliser et rendre locale la production et la souveraineté alimentaire, on règle beaucoup plus vite. On a un espoir de régler le problème. Donc, on ne peut pas... si j'ai bien compris les bilans globaux, à cette échelle-là, les échanges internationaux, ils peuvent poser question. Et malicieusement, moi, j'ai noté une marque qui est toujours là dans le secteur et qui est très grande. C'est la première qu'on voit sur le premier silo, c'est Cargill. Je vois que fait la remarque. Ils étaient là en 1960. Ils sont là aujourd'hui et ils œuvrent pour être là dans 20 ans. Donc, je pense que quelque part, ça fait partie des quatre grosses structures internationales des échanges dans le monde. C'est à ces échelles-là, il y a quand même aussi des questions à se poser. Donc, il y a le Finistère et puis... Si, je suis d'accord avec toi pour le reste.
Oui, on enregistre.
Oui, sans être spécialiste, là, je voudrais avoir votre avis sur un élément qui a été pris en compte tout à fait à la marge. Là, on a dit un tout petit peu environnement. Bon, si on va un peu plus dans le détail, si on parle de la disparition des haies, de la disparition d'éléments naturels, même de petite taille, les vieux murs, le comblement de fosses, de mares qui se fait à tour de bras. Tout ça, bon, ça compte. C'est en dehors du domaine de l'économie, hein, mais à la limite, ça me fait plaisir et c'est assez optimiste ce que vous avez dit en disant il faudrait revenir, peut-être pas à la polyculture partout, mais au moins ne pas spécialiser trop massivement. Pour des tas de petites bêtes, les grands champs, c'est bien, mais si on a une zone trop importante de grandes cultures, sans aucune luzerne et avec pas de prairies et pas d'élevage, il est certain qu'il y a énormément de biodiversité qui disparaît dans cette zone. Hein. Donc, là, c'est une remarque. Vous dites ça serait bien, mais ça serait bien aussi que l'on ne fasse pas de trop grandes zones à culture uniquement et qu'on garde de l'élevage ou des prairies ou des bandes enherbées. Il y en a quelques-unes qui sont légales, qui sont tenues. Mais enfin, ça pourrait améliorer et revenir un peu en arrière par rapport à ce qui s'est fait massivement. Effectivement, on a vu plus, infiniment plus de prairies retournées et retournées de façon définitive. Souvent associés à l'arrachage de haies récentes. Hein. Je ne parle pas des rameubrements des années 50 ou 60, hein, plus récemment. Donc, vous en avez un peu parlé. Je ne sais pas si vous pouvez apporter d'autres précisions dans ce domaine.
Mais après, il faut être précis. Enfin, la question comme ça, générale, il faut se méfier parce qu'il faut être précis sur les endroits où on veut affecter cette réflexion quand même. Hein. Il y a des endroits de France où on a replanté des haies, ça a bien marché. Il y a eu des politiques de conseils généraux qui ont porté leurs fruits. C'est pas noir et blanc la question. Il y a des endroits où il y a des choses très bien qui ont été faites. Enfin, moi, je peux pas connaître tous les départements de France, mais en Loire-Atlantique, par exemple, je connais des endroits où la replantation des haies a été vraiment des politiques publiques qui ont été couronnées d'un certain succès. Donc, on peut faire des choses, hein. C'est faisable de faire des choses. Après, le diable est dans le détail. Si on dit, voilà, dans des zones de grande culture, il faut resegmenter, etc., je pense qu'il y a des endroits, c'est mort. Hein. Ou alors, il faudra beaucoup d'argent public. Alors, ce qu'il faut, c'est déjà préserver ce qui existe dans beaucoup d'endroits. Et donc là, c'est toutes les politiques qui ont lieu sur les surfaces d'intérêt écologique. La prise en compte de la biodiversité dans chaque exploitation pour affecter les fonds publics. Ça, c'est des choses faisables. Alors, c'est affreusement compliqué à mettre en œuvre. parce que respect du talus, respect de la haie, respect du vieil arbre, c'est compliqué quand même, parce qu'on ne va pas mettre un fonctionnaire derrière chaque bout de pissenlit pour dire il fait le boulot et on n'a plus les moyens. Et j'ai cru comprendre même que les choses n'allaient pas s'améliorer sur cette question-là. Donc il faut aussi être raisonnable. C'est-à-dire les politiques publiques qui demandent des contrôles à tous les étages, je vais vous dire, j'y crois de moins en moins, parce qu'on n'aura aucun moyen de vérifier. Alors c'est dur, hein, parce qu'on aimerait bien inventer, à l'INRA on est très spécialiste pour ça, inventer des choses qui seraient magnifiques. Moi j'y crois pas. Donc je pense qu'il faut que, un, il y ait des politiques beaucoup plus localisées des collectivités territoriales sur des aspects concrets de préservation d'endroits jugés stratégiques localement, et là on met le paquet. Je crois aussi dans le bon sens du paysan. C'est aussi dans son intérêt. C'est un acteur, mais c'est aussi un citoyen. Je connais beaucoup d'agriculteurs qui m'ont dit « Bon, écoute, moi, c'est mon milieu, j'y vis là quand j'étais gamin, etc. » Le gars, il nous l'a fait rêver un peu, hein, son arbre. Il a dit « C'est pour les autres. » Il y en a quand même plus qu'on imagine qu'on a encore ce raisonnement-là. Donc, soyons quand même aussi un peu optimistes sur ces questions-là. Après, qu'est-ce qu'on peut faire dans des zones où il n'y a que de la céréale? Il y a eu des bandes enherbées, il y a eu de la jachère. Il peut y avoir des obligations liées au versement des aides PAC pour faire des choses plus responsables. La jachère, faune sauvage, enfin, il y a eu plein de trucs, hein, ça dépend des endroits. Oui, c'est bien, mais ne pensons pas, là je m'engage, ne pensons pas que les politiques publiques auront les moyens demain de mettre un garde-champêtre derrière chaque action au bénéfice de l'environnement. Moi, j'y crois pas. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il y ait du sens économique. Il faut qu'il y ait du sens culturel et il faut que l'agriculteur qui s'engage là-dedans, il ait aussi un plaisir personnel, à la lumière de ce qu'on a vu, à vouloir faire ça. Et puis après, il y a des brutes épaisses hein, dans les campagnes. Il y a aussi des gens, c'est vrai, c'est affolant. Quoi. Alors là, qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est pas à la directive machin de Bruxelles de régler le problème. C'est au voisinage aussi de temps en temps. On vit aussi dans un monde incroyable dans le monde rural aujourd'hui. Où les gens se parlent plus, où il n'y a plus d'échanges en fait sur les pratiques. Peut-être qu'il y a 30 ans, un agriculteur qui aurait rasé une haie, il serait fait culbuter hein, par son voisin. Il aurait dit attends, ça c'est la chasse. Aujourd'hui, l'agriculteur, et je vois à peu près de quoi je parle, hein, il peut faire son truc. Les gens ils sont là, mais ils sont pas paysans, ils sont pas du monde rural, ils sont là, voilà. Donc il fait un peu ce qu'il veut. Donc ça va être compliqué, parce qu'en fait, je pense qu'il y en a pour tout le monde, dans tous les acteurs concernés, pour pouvoir avoir une chance quoi, d'améliorer un peu la relation environnementale avec l'agriculture. Vos questions sont, pour moi, c'est sérieux. Hein. C'est sérieux, c'est pas nouveau. Mais je veux vraiment vous dire une chose, il ne faut pas croire que la politique publique va tout régler.
Oui, j'ajouterais qu'effectivement, dans la Vienne, on replante des kilomètres de haies tous les ans. Hein. Il y a même quelques communes qui commencent à mettre dans les PLU haies classées. Bon, il y en a peu, hein, mais ça commence à se faire parce que le maire est parfois mal vu s'il a envie de classer toutes les haies de sa commune. Mais, et puis, pour la protection, il y a les ZPS, les zones de protection spéciale qui sont traitées avec des MAET. Enfin effectivement, sur des espèces particulières, chez nous, c'est l'outarde. Hein, dans les Deux-Sèvres, hein, dans la Vienne, l'espèce... de la vie-faune qui est en voie de disparition dans toute la France. Et on a encore quelques îlots. Mais là, ça va avec des contrats. Donc, l'agriculteur concerné touche quelque chose pour maintenir des zones enherbées ou des choses comme ça, avec des contrats de 5 ans. Et puis, bon, il y a d'assez bons contacts avec les agriculteurs dans un autre domaine aussi. On fait de la protection des busards qui nichent dans les céréales ou qui nichent au sol... dans les prairies, et parfois c'est les agriculteurs eux-mêmes qui signalent qu'ils ont vu un nid et qui demandent à ce qu'on vienne le protéger, etc. Il y a des gens sensibilisés, hein, c'est pas tout noir. Mais enfin, pour le moment, je pense quand même qu'on en arrache encore plus qu'on en plante. Pas au même endroit et pas avec le même agriculteur. Mais je crois qu'il n'a pas encore basculé.
Il y a un élément de politique publique qui a été hyper efficace contre les haies, c'est quand on s'est mis à calculer l'hectare au centième près avec des photos aériennes. Alors là, ils étaient trois dans un bureau à Bruxelles le jour où ils ont décidé ça. Hein. Ça c'est... Le jour où ils ont dit, vous faites ce que vous voulez sur votre exploitation, on va vous compter, si vous avez déclaré 100 hectares, mais que là-dessus, il y a un hectare de haies, vous êtes 99. Ça n'a pas été long. Hein. Il suffit qu'ils décident que dans un hectare de blé, il y a un pourcentage de haies. C'est accepté. Point final. Parlement, commission, tout le monde d'accord, ok, et on continue. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même. C'est de la politique publique chic et pas cher, hein, mais alors ça a des effets sur les haies. Je pense que sur les derniers hectares qu'on sautait, il y a eu beaucoup de ça quand même. Parce qu'il faut voir, les gars, ils vont aller à Poitiers, pendant ils vont passer la matinée avec un ordinateur, avec en face de un gars, tiens, c'est pas un fonctionnaire peut-être, mais il va regarder la déclaration PAC. On le sait parce qu'à l'INRA, on le fait pareil. J'ai un bon collègue, il se tape ça tous les ans. Il a un domaine de 250. Alors, vous avez bien 15 hectares de... Ah ben non, attendez, là, c'est quoi ce bout de mare, là? Tac, 8. Bon, ben, au bout d'un moment, on a compris, on assèche la mare. Puis... Donc, les politiques publiques, elles ont encore des impacts assez, assez directs. Et alors, sur les prix, c'est encore plus... Les prix, le marché mondial du lait, ça existe, c'est organisé un minimum. Enfin...
Bonsoir. J'ai apprécié votre intervention en donnant des exemples sur le fait que il y a différents types de production et de manières d'arriver à vivre et qu'il n'y a pas une recette miracle. Ça a sûrement un peu mal. J'aimerais que vous soyez nombreux dans ce cas-là parce que il me semble qu'André Pochon, entre les années 60 et 90, il y a pas mal de chercheurs qui ont dit bon, qu'est-ce que c'est que cette espèce de marginal uluberlu qui nous dit qu'il faut continuer de cultiver de l'herbe. Et s'il n'avait pas été motivé en gardant les pieds sur terre, ce qu'il a pu développer avec le CEDAPA et d'autres, ça resterait marginal. Ce qui est intéressant, c'est que l'INRA maintenant s'intéresse à ce que, semble-t-il, à des formules herbagères. Juste rappeler qu'il me semble que la formation des agriculteurs dans les lycées agricoles, c'est une formation à la production, c'est pas une formation à la capacité de commercialiser et de négocier ces produits. On leur apprend à produire, on leur apprend pas à vendre. Et donc ils sont coincés parce qu'après, ils pensent que la coopérative va être la solution, par exemple. Et que la personne qui a 8 hectares, 8 vaches laitières, c'est peut-être parce qu'elle a mis en place un système de vente directe de son lait, puisqu'il n'y a pas de ramassage, etc. Juste pour info, je suis fils de paysan normand. Donc j'ai connu un petit peu ce monde-là et j'ai des cousins qui sont sur des systèmes différents. Trois questions. Sur le bilan énergétique, est-ce que l'INRA a fait un travail là-dessus pour comparer le ratio entre la production qui sort d'un champ, production herbagère, en termes de calories ou de tonnes équivalent pétrole ou de thermie, on va dire tonnes équivalent pétrole ou thermie, par rapport à la production qui sort de ce champ en herbe ou en maïs, par rapport à l'énergie qu'il a fallu mettre en œuvre, en mécanisation, intrants, etc. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Deuxième question, on n'a pas parlé de la valeur nutritive du lait, mais en fait, elle est très très différente si c'est un lait de vache qui a été nourri avec de l'ensilage de maïs plus matière azotée importée, ou si c'est du lait de vache nourri à l'herbe. Il y a une grosse grosse différence, paraît-il. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Parce qu'en tant que consommateur, ça serait bien d'avoir l'info sur les emballages. Et dernière remarque, pourquoi? Quand il y a une obligation d'une couverture végétale sur toute l'année sur les terres, les agriculteurs ne respectent pas cette réglementation. Moi, quand je roule à 120 sur une route limitée à 90, s'il y a le radar, je vais payer l'amende. Pourquoi eux ne payent pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle? Ou est-ce qu'ils ont des passe-droits? Peut-être qu'ils sont très habitués avec la PAC à être des chasseurs de primes. Et ils ont aussi un pouvoir. C'est vrai que le syndicat dominant était pas cité, mais on se doutait de lequel c'était. Ils ont un certain poids. Et puis, dernier point, Vous dites qu'on n'a pas le pouvoir technique, on ne peut pas mettre un garde champêtre pour faire l'état des lieux, mais il y a des satellites français qui tournent au-dessous de nos têtes, qui permettent pour les militaires de voir ce qui se passe sur Terre avec une définition de 10 cm. Alors, j'ai du mal à comprendre comment des cibles potentielles sont visibles avec de 10 cm et plus sont visibles avec un satellite militaire, et pourquoi il n'y a pas des satellites qui sont reliés au ministère de l'Agriculture pour dire ben, sur telle exploitation agricole, il y a tant de surface de mare ou de haie, quoi. Les moyens existent, c'est peut-être la volonté.
Alors, si il y a des légumineuses dans la prairie, de façon efficace, il ne s'agit pas de dire non, j'ai semé du trèfle et tout va bien, parce que s'il est là, de façon significative, 30, 40, 50% de la biomasse, et si on prend en compte les coûts de production des engrais azotés dans le bilan, à vue de nez, je dirais, ça devrait s'approcher à peu près. Ça devrait ressembler au maïs. Parce que le maïs, là où il gagne, c'est qu'il convertit l'énergie solaire de façon beaucoup mieux, beaucoup plus efficace que les plantes qui sont dans les... Enfin, que l'herbe, ce qu'on appelle l'herbe. Bon, si en plus, il n'y a pas de légumineuses et qu'on n'arrive pas à maintenir des légumineuses, alors là, de toute façon, comme dit André Pochon, il faut mettre 100 kg d'azote... ammonitrate, et c'est ça qui va essentiellement grever le bilan énergétique de la prairie. Donc, de ce côté-là, c'est équilibré ou pas forcément défavorable au maïs, je dirais. La question, c'est... par contre, moi, je pense, par contre, que la question énergétique se joue beaucoup quand on change d'échelle et quand on prend ces échanges internationaux. Parce que là par contre... Avoir localement une production pas trop loin de la consommation en faisant un peu attention aux différents à la dégradation, enfin à l'augmentation de l'entropie dans le système, hein, on doit pouvoir gagner. Ça, c'est bon. Sur la valeur nutrition du lait, j'en dirai rien, j'y connais rien. Ça, je sais que le Saint-Nectaire, il vaut mieux le manger quand il est fait avec du foin ou de l'herbe qu'avec du maïs sans silage, mais si c'est par ça, je peux en dire plus. Oui, oui. Il y a même, alors je vais vous dire même, à Lusignan, ça, si vous voulez visiter, il faut y aller. Actuellement, il y a 3 troupeaux de chèvres qui sont conduits en parallèle, avec 3 systèmes d'alimentation, notamment pas mal basés sur l'herbe, ou alors méthode traditionnelle plutôt en intérieur. Et ça prend en compte la qualité du lait. Et il y a des travaux vraiment fins qui vont jusqu'à la qualité, la microbiologie et le fromage de chèvre derrière. Je vous invite à vous intéresser à cet essai qui est pas mal.
Attendez deux secondes. Je vais.
Un ordre de grandeur assez faible. Hein, il y a des effets sur la qualité organoleptique, certains trucs comme ça qui sont bien montrés, mais sur la qualité nutritionnelle, c'est très très faible. Hein. Il ne faut pas croire qu'un lait à l'herbe donne des... Non, non, c'est très, très... je voulais juste vous dire que l'INRA a fortement encouragé l'herbe. Hein ? Faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Moi, j'ai fait toute ma carrière à Lusignan. Lusignan a été créé pour encourager l'herbe. Donc, l'INRA a encouragé l'herbe. Elle a encouragé le maïs aussi. Elle a encouragé tout. Et elle n'a pas... Mais voilà, c'est faut, vous voyez, il y a des trucs qu'il ne faut pas laisser dire comme ça. Hein. L'INRA n'a jamais dit « faites pas d'herbe ». Elle a encouragé très fortement la culture de l'herbe et les prairies. Il y a une unité INRA qui a été créée en Poitou-Charentes pour ça. Hein, d'accord, hein. Mais l'INRA a dit aussi « faites du maïs ». Parce que la vérité n'est pas de faire que de l'herbe ou de l'herbe. Le problème est de savoir... Qu'est-ce que je fais avec l'herbe? Qu'est-ce que je fais avec le maïs? Comment je les associe? C'est ça la vérité.
Alors, il y a une très bonne question sur les cultures intermédiaires. Pourquoi quand même ça ne se fait pas? Alors, ils sont obligés de semer quelque chose. Ils ne sont pas obligés que ça pousse. Il n'y a pas d'obligation. Parce qu'en agriculture,
Et quand même, il faut rester modeste par rapport au climat. Et on met des choses en place et puis on espère que les choses vont bien se passer. Bon, alors un coup, ça lève comme il faut. Un coup, il ne fait pas trop froid trop tôt. Et il y aura des feuilles au soleil pendant l'hiver. Et c'est joué. On sous-estime toujours l'importance des feuilles sur cette planète pour nous. Les feuilles au soleil, c'est tout. Toute l'énergie pour le monde vivant et pour nous, ça passe par une feuille. Déjà, il y a eu tout l'oxygène de l'atmosphère qui est passé par des chloroplastes. Jamais oublié ça. On doit l'oxygène qu'on respire aux plantes. Mais en plus, toujours maintenant, donc, et ça c'est absolument crucial. Goethe, il disait à la fin, son dernier mot, c'est plus de lumière. Grand botaniste, Goethe. Donc, du coup, si ça ne lève pas, ce n'est pas grave, le gars, il a eu obligation de moyens. Et comme de toute façon, s'il fallait qu'il fasse très attention, il faudrait qu'il mette des pesticides, etc. Donc, ils n'y vont pas parce que ils perdent leur temps, leurs moyens à faire pousser des cultures intermédiaires. Actuellement, le système n'est pas avantageux. Soit on trouve un système où on a 3 cultures sur 2 ans, par exemple. Et bon, peut-être on y arrivera un jour. Avec le changement climatique, ce n'est pas interdit de l'espérer, qu'on mette du tournesol. Enfin, bref. Soit actuellement, il y a un problème un peu technique avec des cultures. C'est pour ça que la prairie est si importante dans un territoire. Parce qu'il n'y a pas trop d'équivalent actuellement. On pourrait y arriver à mettre des cultures intermédiaires. Il y a des recherches, mais c'est compliqué. Et du coup, ils ne sont pas hors la loi tout à fait, parce qu'ils font ce qu'ils font. Il y a tout un débat sur... Il y a certaines cultures qui se ressèment, d'ailleurs, parce qu'on récolte 80% de ce qui tombe... Enfin, de récolte, le reste, c'est par terre et ça suffit. Mais c'est vrai que... Ils ne sont pas hors la loi parce qu'ils ont semé ce qu'il fallait et ils ont fait le minimum, mais ça ne suffit pas. De toute façon, après certaines récoltes, enfin le maïs, il se récolte 4 novembre, quoi qu'on fasse derrière, il y a peu de chances qu'on ait beaucoup de feuilles au 1er décembre. Hein. Et ça, c'est un... Je suis assez pessimiste sur ce truc-là, d'après les discussions qu'on a avec un très bon spécialiste de ça, aussi à Lusignan, il bosse pour la Chambre régionale d'agriculture, donc c'est pas super clean, si vous voulez, d'un certain point de vue, mais enfin, il est hyper bon. Ça, je vous conseille de discuter à un moment avec Sébastien Minette sur ce sujet, qui est encore à l'INRA, là, hébergé chez nous, mais bon, c'est compliqué, cette affaire.
Oui, non, sur le point de la valeur nutritionnelle du lait, différent entre système herbager, système intensif, c'est une réalité. Il y a pas mal d'études quand même sur le lien, notamment à Thé, à l'INRA-Thé, avec Jean-Baptiste Coulon, plein de gars, hein, sur les liens entre la qualité du fromage et les types d'aliments que les vaches consommaient. Ouais. Donc il y a eu pas mal d'études là-dessus. Ce que je voudrais dire quand même derrière ça, c'est qu'aujourd'hui, les industriels du lait ne créent aucune différenciation sur le système productif parce que les consommateurs ne le demandent pas. Et donc toute la grande difficulté de lier l'environnement à l'économie, au système productif et à l'économie liée aux consommateurs, c'est que les consommateurs, il n'y a pas d'attente là-dessus. On a essayé de faire du lait liquide de montagne. D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que le lait liquide, c'est 9% de l'utilisation du lait de vache en France. 35% du lait, ça sert à faire des fromages. 20% du beurre. 22% des ingrédients secs destinés à l'export. 7% de la crème. Donc le lait liquide, que les journalistes parlent à longueur de temps quand c'est la crise, c'est 9% du lait seulement. Sur ce lait liquide, on a essayé, il y a 2 types ou 3 types de lait liquide qui ont marché. Il y a les oméga, les trucs un peu, voilà, et encore... Il y a le lait liquide de montagne. Ils ne sont pas allés très loin, je peux vous dire. Et puis alors, le truc qui marche, il faut le reconnaître, c'est le lait issu de l'agriculture biologique, qui représente 580 millions de litres sur 25 milliards. Voilà. Donc ce que je veux dire derrière ces petits chiffres, c'est de vous dire que l'attachement des consommateurs au modèle productif laitier par le canal de ce qu'ils achètent, aujourd'hui, moi je ne le vois pas. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle, on est dans l'univers de la différenciation retardée. C'est-à-dire qu'en fait, les industriels achètent du lait,
ont un degré de sophistication technique dans la technologie laitière qu'entretient bien l'INRA à Rennes, bah, qui fait qu'à partir du lait, qu'il y ait un taux butyreux de temps ou de un peu moins, tout ça, ça ne compte pas, puisque in fine, le produit fini, il est complètement retrituré à partir de la richesse qu'est le lait en tant que tel, qu'il soit issu d'un modèle intensif ou extensif. Et donc, je vais vous dire, je suis très pessimiste sur la capacité à progresser au-delà de ce que fait bien l'agriculture biologique aujourd'hui pour d'autres raisons. Je suis très pessimiste sur l'idée que les consommateurs français vont attacher une importance, ce qui nous servirait, hein, une importance dans leur acte d'achat au système productif qu'il y a derrière. Et j'en veux pour, et là je serai trop long, et j'en veux pour preuve tout ce qui se passe dans toutes les filières animales. Voilà. 85% des poulets consommés en France dans la restauration hors foyer sont pas français aujourd'hui. Ça ne nous empêche absolument pas que nos gamins ils bouffent allemand, belge ou néerlandais. Si, le dimanche midi. Dimanche midi, quand on achète le poulet de Brest, poulet de Janzé, poulet de Loué, poulet tout ce que vous voulez, parce que du coup, on se rattrape un peu, on se dit, là, on a un peu de temps. Donc, c'est un quatorzième des repas de la semaine. Et là, on fait un peu gaffe. Donc, on sort les deux, trois fromages, le beurre déchiré, et puis on s'éclate, la bouteille de Bourgogne. Mais tout le reste de la semaine, on a tout oublié. Et donc, où je voudrais dire une chose, c'est qu'on on fait comme si souvent les consommateurs étaient très attentifs, très responsables, très écolo-citoyens. Ben, l'économiste que je suis n'a aucune preuve de ça. Et que donc, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe que l'industrie laitière, elle continue à faire une différenciation retardée. Et plus ça va, moins ça va. Enfin, c'est pas que plus ça va, moins ça va, mais plus ça va, plus on est là-dedans, quoi. Et on n'en sort pas. Sauf pour quelques produits particuliers que tout le monde connaît et qu'on ressort à chaque fois. Un petit coup de Comté, un petit coup de Beaufort, un petit coup de Cantal, un petit coup de beurre d'Isigny. Toujours les mêmes. Mais eu égard aux 25 milliards de litres de lait qu'on fait en France, c'est très faible. Et puis l'autre point, c'est que votre remarque sur les lycées agricoles, il faut l'écouter avec beaucoup d'attention. Je pense, mais ça c'est un autre débat, je pense que la formation qu'on donne aux jeunes agriculteurs en France n'est pas à la hauteur des challenges pour demain. Mais c'est un autre débat. Je pense qu'on leur apprend à produire, on ne leur apprend pas à vendre, ça c'est une chose. On ne leur apprend pas à bosser ensemble. On ne leur apprend pas que la coopération peut avoir des vertus pour les agriculteurs qu'ils sont. On ne leur apprend finalement pas grand-chose à part la technique, l'acte de production et parfois un goût immodéré du machinisme agricole qui les conduit à leur perte. Je suis très dur quand je dis ça, mais je pense qu'on a un très gros boulot à faire en France sur la question de la formation de nos jeunes. Ils le méritent bien parce que être agriculteur demain, dans le monde compliqué dans lequel on est, si on ne se donne pas les moyens de les accompagner, on va morfler. Ils sortiront.
Oui, je voudrais souligner ce point très important concernant les jeunes pour l'avenir, justement, de notre système laitier en France, parce que ça s'est ressorti dans le film un peu indirectement. Quand ces jeunes parlaient de leur temps de travail très, 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 très important. Et puis à un autre moment, ils ont parlé aussi des surfaces et des terres qui n'étaient pas assez disponibles pour qu'ils puissent s'installer. Ça, c'est deux aspects importants. Sur le premier point, le temps de travail, je pense que c'est ce qu'on dit pour alimenter un peu la discussion, mais que ça cristallise beaucoup d'autres choses derrière le temps de travail. Il y a le... Il y a la reconnaissance par les autres, il y a le regard des amis, des copains qui font d'autres métiers. Il y a beaucoup de choses qui se cristallisent et qu'on résume par le temps de travail quand on est sur une ferme. Donc ça, c'est, j'aimerais savoir quel est votre regard d'économiste, vous, là-dessus. Et que pour s'en sortir et pour qu'il y ait des jeunes qui continuent à s'installer, une place doit leur être faite, bien sûr, mais ça passe par vraiment la formation. Par la formation. Et la formation des lycées agricoles, je trouve que c'est une erreur dans les années 50 d'avoir mis à part la formation des agriculteurs à part de la société. que le cursus aurait dû être beaucoup plus long avant la spécialisation, parce qu'ils souffraient déjà d'un isolement de par leurs conditions de travail, et ils se retrouvaient isolés dans les agricoles aussi, pour leur formation entre eux. Bon, c'est à des degrés variables aujourd'hui, mais c'est un point qui est à prendre en compte. Et les lycées agricoles sont orientés, comme vous l'avez dit, sur la technique, et pas suffisamment peut-être sur l'économie et sur la prise en compte du milieu, de l'environnement ces dernières années. J'aimerais avoir votre point de vue sur ces aspects-là. Merci.
Ouais, je vais le donner rapidement, il faut qu'on respecte les horaires, donc je vais répondre rapidement. C'est passionnant tout ça de toute façon. Hein. Alors, sur le rapport au travail, d'abord, je ne suis pas sociologue, j'ai écouté des sociologues qui font ça nettement mieux que moi, et puis qui nous racontent un peu le dessous de l'histoire. Un peu, hein. La sociologie, c'est un complément utile à l'économie pour comprendre le monde laitier. Ça, j'en suis sûr. Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez raison de dire que derrière la question des 35 heures, qui était mal résumée finalement, qui ne voulait rien dire dans le film, en fait, il y a le sentiment de vivre une vie différente des autres, ce d'autant qu'ils sont de plus en plus avec des conjointes qui travaillent à l'extérieur et qui les renvoient à leurs conditions d'agriculteur. Donc c'est une réalité, c'est une difficulté. Ce que je voudrais, c'est quand même être plus optimiste. Métier de paysan, producteur de lait, ce n'est pas un métier pour faire tout seul. Hein. C'est fini. Hein. Enfin, il faut être clair, il y a 20% du lait en France qui résulte de fermes individuelles. 42% du lait en GAEC, 30% en ERL. Donc ça veut dire que faire du lait tout seul dans sa cour de ferme là, avec la femme qui bosse à l'extérieur, c'est juste déraisonnable dans le monde dans lequel on va avancer. Donc les solutions sociales, elles vont être trouvées. Je pense que vous avez raison de dire que les agriculteurs, quand ils disent ça, c'est qu'ils ont le sentiment que le contrat social qui les unit à la société, il est moins clair qu'avant. Ils ont le sentiment d'être moins au service de la société. Ils ont le sentiment d'être plus critiqués par la société dans l'exercice de leur travail, et moins au service de la société. Et pour les jeunes, ce n'est pas forcément toujours évident à accepter. L'autre point que je voudrais dire, je ne partage pas votre pessimisme, enfin, pas pessimisme, je ne partage pas votre analyse sur les lycées agricoles. Moi, je pense qu'on a des lycées agricoles de grande valeur, on en a eu, il y a des milliers d'agriculteurs qui sont passés par ces structures performantes. Je pense qu'ils ont mal vieilli. Voilà, je pense qu'ils ont mal vieilli. Je connais un peu, j'ai fait 5 ans de lycée agricole avant de faire des études d'ingénieur, donc je connais un peu. Ils ont mal vieilli, voilà. Ils étaient très bons dans les années 70-80, ils ont formé des milliers de paysans compétents en France. Ils ont mal vieilli. Et justement, c'est peut-être l'inverse de ce que vous dites. C'est que je pense qu'ils ont associé avec des gens qui voulaient faire le métier d'agriculteur, des jeunes qui sont des gens qui ne réussissent pas dans le parcours classique. On a mélangé des choux et des carottes, à un âge de la vie où ce n'est pas toujours évident à vivre pour les jeunes qui vont devenir chefs d'entreprise. Alors, je vais directement à ma conclusion. Je pense qu'il faut faire en France une quinzaine de classes de BTS pour les futurs paysans de demain. Et pour eux, il faut leur réserver le meilleur. Il faut adosser ces BTS aux écoles d'agro, de telle sorte qu'ils ne soient pas isolés, et là je suis d'accord avec vous, qu'ils ne soient pas isolés dans leur lycée agricole avec des jeunes qui viennent là, mais qui ne savent absolument pas qu'ils seront paysans un jour. Il faut leur réserver le meilleur, parce qu'être agriculteur demain, ça sera compliqué. Il faudra à la fois être gestionnaire et puis être bien positionné. Donc, il faut leur réserver le meilleur. Donc, quelque part, on est un peu d'accord. On critique le modèle. Ce qu'il faut, c'est trouver la sortie positive du modèle. Voilà ce que je voudrais vous dire. La sociologie est un point fondamental. N'ayons pas une vision que négative de la vie des agriculteurs dans les communes. Aujourd'hui, je suis saisi, hein, j'en croise quand même beaucoup de jeunes qui me disent qu'ils ont exercé un métier en ville ou dans des organisations agricoles et qui veulent s'installer. Quand vous regardez la sociologie des gens qui s'installent dans le secteur laitier en France, il y en a beaucoup qui ont exercé une activité professionnelle à l'extérieur et qui trouvent plus valorisant pour eux-mêmes de s'installer en agriculture. Donc, il faut aussi voir pas le verre vide ou plein. Il faut voir qu'il y a des gens qui arrivent et qui sont contents de faire ce métier-là.
Excusez-moi pour des contraintes horaires, on va être obligé d'arrêter. Vous vouliez faire une intervention, une dernière rapide?
Juste une question très naïve. Enfin, moi, ce qui m'a choquée dans ce film, c'est quand on entend dire que, oui, les vaches mangent de l'herbe et visiblement, elles s'en portent très bien. Enfin, Vous avez déjà répondu à ma question, mais j'ai du mal à comprendre si, en fait, si l'herbe est aussi magnifique que certains ont pu le dire, pourquoi, en fait, tous ne passent-ils pas à l'herbe ? Et pourquoi est-ce qu'on continue donc avec le maïs ? Enfin, il y en a un qui le dit. J'ai vu une exploitation où les vaches étaient nourries qu'avec de l'herbe. Et tout le monde s'en porte bien mieux que le voisin qui continue à nourrir avec du soja et du maïs. Donc pourquoi on continue en fait à nourrir non, mais je connais déjà la réponse. Mais non, je connais pas la réponse, sinon je vous poserai pas la question. Mais
non, mais il y a, ce que je répète, si on veut. Si on considère le troupeau de vaches comme un outil de production et que chaque vache est une machine, ce qui était moi j'ai un des plus grands profs de zootechnie de France, Colliou, hein, l'agro, c'était son enseignement. Hein. Première diapo, la vache est une machine. C'est des mots qui ont été dits dans les écoles d'agronomie. Si on veut considérer ça comme ça et que on regarde bien la régularité de la production, qui sont permis par le couvert végétal, par une culture de maïs ou bien une culture d'herbe, eh ben, la régularité, la sécurité, quand on parle de sécurité, deux, trois fois, ça revient la bouche de celui qui a du maïs et qui dit, bon, heureusement qu'on a du maïs, moi, je peux leur donner à manger. Ceux qui ont que de l'herbe, les vaches, elles sont à l'intérieur, là où il y a du foin pour l'hiver prochain, eh ben, je vais être obligé de leur donner ce foin-là parce que l'herbe ne pousse pas. C'est là qu'elle est la clé. C'est-à-dire que s'il y a un quota, s'il y a une production et si elle est élevée, non, c'est clair, le système est plus efficace avec du maïs. Surtout parce que le soja, c'est pareil, c'est un outil, c'est un facteur de production qui est dans un silo. Là, pour le coup, c'est le robinet, ça marche très bien. On en veut, on paye. Et ils ont raison, et tout le monde est d'accord, hein. Ils sont tous d'accord entre eux. Les structures économiques font qu'on donne les moyens, par le crédit,
oui, d'acheter bonifié, du maïs. Et,
et on va favoriser, en plus, l'achat de protéines qui viennent effectivement d'Amérique, du Sud ou du Nord. Et tout ça est organisé pour. Et c'est pareil, si Cargill il est sur le silo, c'est organisé pour. Du coup, d'un point de vue de l'efficacité, En jouant en plus sur cette histoire de variabilité du climat, c'est plus efficace. Alors après, on dit l'herbe, c'est un fait que l'herbe, sont des plantes très spéciales. Hein. C'est genre, on n'a pas le temps malheureusement, mais un jour je reviendrai ici, je suis sûr, je vous raconterai pourquoi l'herbe s'est adaptée aux herbivores. Parce que c'est attention, les graminées, elles procèdent de l'évolution de plantes avec des herbivores. Donc, non seulement c'est normal que les vaches mangent de l'herbe, mais il y a de l'herbe parce qu'il y a des vaches. Oui. Enfin, ou des antilopes, ou des bisons, mais c'est pour ça. Et donc, ça va assez loin. Mais il n'empêche qu'à la fin, quand on considère la panse d'un ruminant, ce qui doit produire du lait, etc., qu'on lui donne du maïs, en premier ordre, hein, c'est de la cellulose avec un peu de saleté autour, qui va produire la même chose. Voilà. Et donc, que ça vienne de l'herbe ou du maïs, c'est la même chose. Alors, si pour produire le maïs, c'est plus sûr, plus régulier, que tout le système est organisé pour, bah voilà, c'est plus simple. Il dit, le gars, hein, c'est plus simple.
Oui, parce que du coup, ils subissent aussi la pression de devoir aussi acheter.
Alors, le coup de subir la pression, au bout d'un moment.
De toute façon, c'est un cercle vicieux. Hein, mais
il faut arrêter. Mais...
Désolée, mais en plus, il y a des contraintes aussi pour monsieur Châtelier. Voilà. Mais écoutez, merci pour ce débat animé, fort intéressant. Et puis, rendez-vous une prochaine fois pour continuer. Alors, bonne fin de soirée à tous. Au revoir.